nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive.
Je n'ai pas eu beaucoup de kilomètres à faire aujourd'hui pour tendre le micro de Belles Traces au plus grand sprinter français de l'histoire. On se trouve à Aix-les-Bains et en fait il est venu chez moi, donc ça c'est cool. Alors à Aix-les-Bains il a effectué toute sa brillante carrière, mais qui n'est pas encore terminée, donc en tout cas une grande partie, et notamment avec son entraîneur de légende Pierre Carraz. Ensemble ils ont vraiment écrit des pages de l'histoire de l'athlétisme français, on peut le dire. Des médailles olympiques, mondiales et des titres européens. Donc je suis sincèrement très heureuse que ce grand timide ait accepté mon invitation. Salut Christophe Lemaître.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va nickel, merci, ouais.
Alors t'es bien avec Aix-les-Bains?
Bah toujours, oui, ouais. Je suis déjà parti. Hein.
Alors la légende dit que tu as commencé l'athlétisme tard, à 14 ans, c'est ça?
15 ans.
15 ans. 15 ans et t'as été repéré sur une espèce de kermesse, un test qui s'est fait dans une fête, c'est ça?
Alors c'était, ouais, c'est pour préciser, c'était la fête du sport à Belley. C'est une journée où tous les clubs sportifs de la ville viennent faire des démonstrations et aussi pour attirer des gens dans leur club. Donc moi, je m'étais intéressé à l'athlétisme parce que c'était à l'époque, c'était là où je voulais tester après avoir fait différents autres sports. Donc j'avais fait un test sur 50 mètres. Bon, ça c'était une allée en gravier avec des fois des petits trous là.
C'était pas une piste d'athlée.
Non, c'était pas une piste d'athlée du tout. Il y avait des starts déjà, c'était déjà pas mal à l'époque. Donc j'avais fait ce 50 mètres et là il y avait mon premier entraîneur Jean-Pierre Ner qui s'occupe de la section sportive de Belley qui est rattachée au club d'Aix. M'a demandé de recommencer pour confirmer le chrono. Donc je dis ouais, pas de soucis, ça me dérangeait pas. Donc on fait à peu près mon chrono, je ne sais plus si je bats le chrono que j'ai fait avant, enfin bref. Et il me dit que je devais me mettre au sprint parce que il avait pas vu un gars comme ça aussi vite de la journée. Enfin, j'étais le gars qui a couru le plus vite de la journée. J'avais même battu le record de référence qu'avait établi un peu plus tôt Pierre-Alexis Pessonneau, qui deviendra après mon coéquipier au club. Et donc il m'a dit, bah mets-toi au sprint et essaye. Donc je dis, bah ok, pas de soucis, je me suis inscrit, j'ai fait deux, trois entraînements, j'ai fait ma première compétition, puis après ça m'a plu, donc j'ai continué.
D'accord. Mais alors justement, tu as dit avant, tu avais essayé d'autres sports et en fait tu voulais essayer l'athlétisme. Quel autre sport tu avais essayé avant ?
Alors j'ai commencé très jeune par du hand. En fait, j'ai fait que des sports collectifs. J'ai commencé par du hand, j'ai essayé le rugby, après je me suis mis au foot, j'ai réessayé le hand et après, c'est après ce moment-là que j'ai essayé de me mettre dans un sport individuel et au sprint. Pourquoi ? Parce que, bah, que ce soit au collège, dans les cours de PS ou dans les sports collectifs, je me démarquais souvent par ma vitesse. On faisait toujours la remarque sur le point de vitesse. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, on va essayer un sport en relation avec ça. Et puis bon, bah, ça a bien matché, je suis content.
Ouais, c'est génial d'avoir trouvé en fait ta voie, mais super tard, quoi. C'est vrai que c'est rare dans le sport de haut niveau aujourd'hui de commencer à 15 ans, quoi.
À l'époque, je ne savais pas, mais mais avec le recul et l'expérience, ouais, c'est vrai que c'est assez tard, mais je me dis que c'est possible parce qu'en 15 ans, t'es cadet, ça peut se faire. Ouais. J'ai vu beaucoup des gens arriver encore plus tard et arriver en équipe de France. Mais c'est vrai que 15 ans, c'est là où, en général, où tu commences vraiment à te spécialiser quand tu as l'habitude de faire plusieurs années. Moi, ça tombait pas, je voulais faire juste une chose, c'était le sprint. J'essayais de discipline, j'essayais de la longueur et de la hauteur, mais comme je sautais ni haut ni loin, j'ai arrêté du coup.
Ouais, en même temps, pour sauter loin, il faut courir vite. Hein, mais,
mais il faut arriver à sauter déjà.
Ouais, il faut arriver à sauter, c'est clair. Et quand tu dis j'ai voulu à un moment essayer l'athlétisme, tu regardais les compétitions et tu as été inspiré par des champions ou alors c'était juste la discipline elle-même ou le fait de courir vite pour le coup qui t'attirait ?
Alors même pas parce que je vais être honnête, quand j'ai commencé à clé, je connaissais rien du tout au sport, je connaissais pas les stars, même les stars françaises. Je ne connaissais pas du tout, je ne regardais pas du tout les compétitions d'athlé. Même pour une petite anecdote, j'étais au chevet du monde cadet en 2007. On parlait avec l'équipe de France, je ne sais plus de quoi on parlait des stars et tout. Et à un moment, on m'a demandé qui était la Jidou Kouré. Je dis, je ne sais pas du tout qui c'est.
Ah oui.
Et du coup, voilà. Donc du coup, voilà. Ouais, c'était mon niveau culturel à l'époque, il était très bas. Donc après, ça va, j'ai refait mon retard petit à petit. Oui. Mais c'est vrai que je débarque, je connaissais rien. Ouais. Tu m'aurais parlé des records du monde, des records de France. J'ai dit non, aucune idée, je sais pas qui c'est. Voilà.
D'accord, ouais, oui.
Peut-être Marie-Jo, peut-être à rigueur, j'aurais su, mais après le reste, non.
Ouais, d'accord, bah écoute, pourquoi pas. Et après, au début de ta carrière, tu as été inspiré par des champions. D'ailleurs, quel était l'accueil dans l'équipe de France d'athlétisme quand t'es arrivé d'un peu de nulle part, quoi, un peu une météorite, quoi.
Ben, quand je débarque en équipe de France, on va parler plutôt de l'équipe de France A, la senior.
Oui.
J'arrive, c'était justement, il y avait Gany Galouz, le DT de l'époque, qui était là. Et j'étais super bien accueilli. Il y avait une très bonne ambiance au sein de l'équipe de France. Ça se passait super bien. C'est plutôt eux qui m'ont accueilli que moi je suis allé vers eux parce qu'à l'époque j'étais encore super timide encore à l'époque. J'avais pas forcément vers les autres, j'étais un peu réservé, mais ça m'a pas empêché d'avoir des liens avec les membres de l'équipe de France, de bien m'entendre avec eux et d'avoir des affinités avec des personnes, encore aujourd'hui d'ailleurs.
Oui. Ouais. Et est-ce que justement, tu parlais de tu as fait pas mal de sport collectif, là c'est un sport individuel, mais tu as les relais aussi, quoi. Et je sais que tu as eu des médailles en relais et c'est des choses qui t'intéressaient aussi. Est-ce que tu retrouvais un peu cet esprit collectif dans le relais ? C'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est 4 personnes, mais avec les relais, plus avec les. Avec les
Il y a eu des moments, oui, il y a eu des périodes où on avait un bon esprit collectif.
Ouais.
C'est toujours dans la même période, à peu près entre 2010-2012, à peu près, où il y avait un très gros esprit collectif. Je crois que le point culminant, on va dire, d'esprit collectif, c'était 2011, quand on était à des égouts. En fait, ce qui est bien, c'est que à des égouts, c'était comme un village olympique, entre guillemets. On était tous au même endroit, toutes les nations étaient au même endroit, on mangeait quasiment au même endroit et. On était dans un appart où tout le relais était là. On était 6 personnes dans l'appart et on arrivait à s'entendre. On descendait manger tous ensemble, on repartait tous ensemble. Il y avait vraiment un esprit collectif qui s'est fait à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de décrocher la médaille d'argent au championnat du monde, à ces championnats du monde. Et il y avait quand même un bon esprit collectif à cette époque-là.
Ouais. Ouais, ouais. Donc tu sous-entends que ce n'est pas tout le temps le cas dans les relais aussi.
Bah, de toute façon, il y a toujours un côté individuel parce que forcément, tu as envie d'être titulaire, tu as envie de courir. Donc c'est sûr que des fois dans les entraînements, on se tire la bourre, mais c'est quand même dans le but du relais parce que seuls les 4 meilleurs relayeurs, et pas sprinteurs, parce que parce que le relais c'est quand même un peu à part aussi, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Seuls les 4 des meilleurs relayeurs sont pris. Et du coup, chacun se donne à fond pour participer. Mais ça permet aussi de tirer le relais vers le haut aussi,
oui,
forcément.
Bien sûr,
et donc, du coup, ça permet d'avoir les résultats qu'on a eus dans cette période-là.
Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mais, et donc, tout à l'heure, je parlais aussi de Pierre Carraz. C'est vrai que tu as une relation juste incroyable avec lui. Ça fait combien de temps il t'entraîne encore un peu ou il est toujours par là?
Oui, il est toujours au club, oui, bien sûr, il l'entraîne toujours. De toute façon, je pense qu'il entraînera jusqu'à sa mort. Donc. je crois que je suis avec lui depuis 2007, je crois. 2007, j'ai commencé à travailler avec lui, je pense. Parce que Jean-Pierre Nerf, donc mon premier coach, m'a dit faut que tu traînes avec Sébain, parce que à Belay c'était de la cendrée, donc il fallait que j'aille avec Sébain pour m'entraîner avec lui, avec un plus gros groupe, et aussi c'est une vraie piste en tartan. Et c'est vrai que rien que pour l'environnement c'était un plus pour m'aider à progresser. Et puis Pierrot qui était qui est toujours, mais qui avait vraiment l'œil et qui était vraiment la personne qu'il me fallait pour progresser, faisait que j'étais dans un environnement parfait pour faire sortir mon potentiel en compétition.
Exactement. C'est un coach qui a senti, qui a repéré tout de suite tes qualités et comment travailler avec toi finalement, parce que on parle souvent d'un athlète, mais c'est vrai que l'osmose avec le coach elle est essentielle, quoi.
Oui, c'est primordial d'avoir confiance au travail donné par le coach. C'était des fois, des fois il y a des moments où c'était vraiment dur.
Il n'est pas facile.
Oui,
Pierrot,
surtout que pour reconnaître son caractère,
oui.
Un peu bourru, mais et aussi assez franc des fois aussi.
Oui.
Mais au moins ça. On travaillait, mais on travaillait avec une bonne qualité de travail. Et aussi, à l'époque, il y avait un très gros groupe de sprint, hommes et femmes, qui permettait d'avoir une bonne ambiance, mais aussi d'avoir un environnement de travail de qualité pour progresser.
Ouais.
Donc, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour bien s'entraîner.
Ouais. Mais c'est vrai que Kylia, ma fille qui est là, qui écoute, elle était aussi au club d'Aix-les-Bains et on sent que tu as un vrai esprit club. Tu as toujours été dans les compétitions de club. Là encore, il n'y a pas longtemps, il y avait un petit meeting à Chambéry et tu étais encore là pour soutenir les athlètes du club. C'est vrai que pour toi, ça c'est vraiment important.
Je pense que ça fait partie de la vie du club aussi. Pour moi, déjà, je pense que de base, participer aux compétitions de club comme les interclubs ou la Coupe des spécialités où il y a les relais, je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça permet, toujours de forger, on va dire, des liens avec tes camarades aussi, mais aussi un peu de représenter ton club aussi, de dire que t'es au club, tu bénéficies des infrastructures, de l'expertise des coachs et même d'autres choses aussi. Donc, ça peut être normal aussi d'un peu de représenter le club. et de
ouais, participer à ces compétitions. Ouais, mais toi, t'es toujours là. Moi, je t'ai vu sur toutes les petites compétitions. Je me rappelle une fois, t'étais rentré d'une compétition internationale et t'étais blessé et t'étais là dans les tribunes. Je trouve que c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super, quoi. Vraiment, je trouvais que l'esprit, il est incroyable.
Mais oui, mais parce que c'est normal. Je trouve que... Bah, quoi, après... Après, c'est un peu dans la continuité. Quand tu forges des liens avec tes camarades, bah, t'as envie d'aller, quand tu peux, d'aller les voir, faire des perfs, les encourager, que ce soit quand c'est sur Aix, Chambéry, Annecy. Quand c'est dans la région, ouais, bah, pour moi, ça ne me dérange pas de faire le déplacement pour les encourager et de les soutenir, parce que ça fait partie aussi un peu de l'esprit club aussi. Hein, ouais.
C'est aussi comme ça que vous soutenez à l'entraînement. Alors, justement, si on parle d'entraînement, est-ce qu'elle est vraie cette anecdote que tu te cachais des fois pour rater quelques séries d'entraînement derrière le tapis de saut à la perche ou t'essayais un peu de faire quelques séries en moins ou pas quelques fois quand t'étais jeune en tout cas au début
J'ai pas fait souvent.
Tu l'as fait quand même alors.
J'ai dû la faire une fois ou deux, après je pense que cette ligne n'a plus marché donc. Une fois que tu l'as fait une fois deux, après tu peux plus faire trois fois. Donc. Mais il y en avait certains, ouais. Mais il y en avait d'autres aussi du club qui faisaient ça, ouais.
Oui.
Qui faisaient en fait pendant les séances de sprint long, qui se entre guillemets se cachaient entre guillemets à l'avant-dernière course. Ils arrivaient frais comme des gardons pour la première et pour la dernière et ils se démontaient la gueule pour faire genre et ils se sont donnés pour la fin quoi. Mais nous on savait. Et du coup ça on est. Des fois, ça nous foutait un peu la rage, donc nous aussi, on se démontait pour pas qu'il vise le premier, quoi. C'était ce qu'on voulait pas. Qu'un gars qui s'est planqué pendant une course vienne entre guillemets, gagne, parce que c'était pas vraiment une compétition, mais finisse la dernière course premier, quoi.
Excellent. Alors, on va parler aussi un peu échauffement et préparation. Alors, moi, j'ai eu la chance d'aller au Jeux de Rio, de voir quand tu as gagné cette super médaille de bronze sur le 200. Et j'étais surtout aussi au stade d'échauffement. Alors je me suis fait une petite souris pour regarder l'échauffement.
C'est vrai, parce que je n'ai pas vu, donc.
Mais oui, je sais tellement que c'est important ces moments-là que je n'allais pas du tout déranger. Donc je regardais. Et c'est drôle parce que j'étais fixée, bien évidemment, sur toi, sur ton échauffement, sur celui du Canadien
de Grasse.
Ouais. Et puis sur Bolt, hein, qui faisait l'animation, qui faisait le show. Et alors, il y avait trois, en fonction des personnalités, je pense que c'était trois types d'échauffements différents. Alors Bolt, c'était incroyable parce qu'il avait déjà une cour de gens qui le regardaient s'échauffer. Enfin, ils étaient tous assis devant, c'était incroyable. De Grasse, il était entre... Et toi, tu étais beaucoup plus discret, hein, tu étais beaucoup plus déjà dans ta bulle, en fait, hein, quand même assez longtemps avant.
En fait, dès que je commence à lancer mon échauffement, moi, j'essaye d'être le moins distrait possible et d'enchaîner, on va dire, mon échauffement de manière fluide et sans interruption ou sans perturbation.
Ouais.
Pour moi, c'est important. Voilà, après, une fois que tu commences ton échauffement, même déjà un peu avant, on pourrait dire que je suis dans ma bulle parce que il y a l'envie de commencer à s'échauffer parce que quand tu commences à t'échauffer tu dis ça y est là tu te prépares pour justement pour la compétition donc tu sais que ça se rapproche finalement un peu du moment fatidique et déjà j'ai la pression de entre guillemets liée à l'atmosphère, l'enjeu qui commence déjà à monter puis ça quand tu commences l'échauffement tu dis que c'est important parce que c'est ça qui va te permettre de te mettre dans les meilleures conditions pour performer et du coup moi j'essaie vraiment d'être dans ma bulle de jamais
t'as une pression particulière est-ce que tu ce moment-là tu le vis bien et puis la libération ça va être la course ou alors ça fait partie du enfin t'as une routine quoi
il y a un peu de tout il y a la routine forcément que j'essaie de respecter pour être bien, on va dire mentalement. Il y a aussi, forcément, il y a de la pression, mais je pense que c'est plus de l'excitation que de la pression parce que tu as envie. Moi, j'avais déjà envie d'être sur la piste, de quoi. Je veux dire, mais vas-y, arrêtons ça, et on va dire sur la piste, quoi. Mais bon, tu sais que tu peux pas te permettre de pas t'échauffer, quoi. Donc,
Et t'étais pas du tout perturbé par justement un Bolt qui, lui, avait tendance à faire le show, est-ce que tu le voyais ou est-ce que tu le voyais juste d'un œil ou est-ce que tu le regardais aussi un petit peu comment ça se passait
Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que lors de la finale, pour te raconter, ouais, lors de la finale, je prends le bus pour aller au stade d'échauffement. Et j'ai vu ce bus étonnamment plein pour aller au stade d'échauffement, alors que. Alors, j'avais, bah, normalement, c'était vers la fin de la session, quoi.
Oui.
Donc, tu dis, pourquoi il y a autant d'athlètes, de sportifs?
Oui.
J'ai même, il y a des têtes que je connaissais pas, que j'ai jamais vues. Et en fait, tu vois qu'ils arrivent tous au stade d'échauffement. Et tu vois qu'ils sont là juste pour, en fait, aux entours de. Tu dis, ah, ok, d'accord.
C'est ça.
Tu dis, mais c'est là, je comprends pourquoi il y a des têtes que je connaissais pas. Je pense qu'il y avait même d'autres sports et tout qui sont allés le voir.
Ah, oui, c'est sûr.
Et moi, du coup, en fait, Bolt était sur une ligne droite. Moi, j'étais à l'opposé vers les tentes des kinés.
Oui.
Comme ça, parce que c'était plus intelligent. Comme ça, moi, si j'ai un problème, j'allais vite au kiné qui était juste à côté. Je perdais pas de temps. Mais après, quand je commençais, après, j'étais dans mon truc. Oui. Je faisais mes départs, mes virages, mes accels. Et j'étais dans mon truc après. Donc,
Et dans la chambre d'appel? Quel était... Toi, tu regardais les autres te regardaient, comment ça se passait?
Moi, je sais que je regardais pas les autres parce que c'est pas mon style de.
Ouais. De défier ou.
Ouais. Ouais, c'est pas mon style de défier les gens du regard ou de faire jouer les gros bras, c'est pas du tout mon style. C'est comme un peu dans la zone d'échauffement, je reste un peu dans mon truc, dans ma bulle. Des fois, je me lève, je fais des montées de genoux rapides pour rester chaud, etc. Pour bouger un peu. Il y en a d'autres aussi des fois qui bougent un peu plus que d'autres, etc. Donc ça dépend, en fait, ça dépend des gens, mais moi j'ai pas vraiment la pression, enfin en tout cas pour moi, qu'il y a peut-être ça se faisait un peu dans les années 2000, 90, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment ce jeu de provocation, etc., de rouler des mécaniques. Ça le fait au départ, quand ils sont sur le départ lors de la présentation.
Oui.
Mais en tout cas, dans la chambre d'appel, en tout cas, moi, j'ai pas observé de personnes qui jouaient de l'intimidation dans la chambre d'appel, quoi.
Ouais, d'accord. Et tu avais une relation particulière avec Bolt ou juste cordial et il t'a salué ou vous parliez un petit peu ou pas du tout? Avant ou après, un peu
Bah, c'est vrai que quand...
Parce que t'as quand même fait ta carrière vraiment en plein avec Bolt, quoi, qui était juste incroyable, quoi. Et ce podium olympique, notamment, il est fabuleux.
Ah oui, c'est... Bah, en fait, quand on se voyait, on saluait, parce qu'on on se voyait fréquemment, que c'était dans les meetings, donc on se saluait. C'est vrai qu'après des courses comme Daegu ou Londres, Rio, on se parlait un peu, mais sans plus, après la course, en chambre d'appel, vers la zone média, etc. Je me suis même retrouvé à Londres, dans la même boîte de nuit que lui, c'était marrant. Genre, je n'étais pas prévu, et du coup, t'avais toute une espèce VIP réservée pour lui, qu'il a débarqué comme ça avec ses potes, ses camarades. De sprint, je pense, et je crois qu'il y avait Blake notamment avec lui et peut-être d'autres gars, je m'en souviens plus. Mais c'était marrant parce qu'il était vraiment cool et assez naturel finalement. Parce qu'on pense souvent que Bolt, quand il fait ça, c'est pour faire le show et c'est jouer un rôle. Mais en fait, je pense qu'il est vraiment comme ça en fait. Il est vraiment dans ce mood là et en fait, du coup, c'est. Je pense que quelqu'un assez de naturel et d'extraverti.
Ouais, c'est clair. Et alors, faut quand même revenir sur ces... Je sais pas, on peut parler de ce podium. Si, on va parler de ce podium, puis après, tu me diras quel est ton plus grand moment. Mais ce podium qui se joue à quelques millièmes sur la ligne avec l'anglais, comment tu l'as vécu après cette remise de médaille? À quoi tu as pensé sur le podium? Est-ce que tu t'en rappelles? Parce que des fois, on s'en rappelle pas.
Si, quand même. C'est ma seule médaille olympique individuelle, donc j'ai peut-être m'en rappeler. Finalement, en fait, c'était. Moi, je l'ai vécu ça de manière assez formelle, on va dire. Dans le sens, j'étais quand même super sérieux, j'essayais de rester droit, d'être assez tranquille finalement. Bah, même Bolt aussi, d'ailleurs, il était étonnamment calme. Je pense qu'entre le podium du 100 et du 200, j'avais pas l'impression de voir la même personne. Mais c'était. J'ai profité du moment, mais tout en restant formel, mais avec la joie d'avoir cette médaille de bronze autour du cou. Parce que, pour rappel, ça s'est joué au millième avec l'anglais. Et à tout moment, je peux recevoir un coup de fil où on vient me dire, en fait, T'es reclassé troisième, ils auront vu la photo finish, c'est lui qui est devant, pas toi.
Ah ouais, tu penses ça derrière, tu penses que ça peut...
Ah oui, bah quand t'es à 3 millième, ouais. Tu te dis forcément, connaissant moi ce que je ferais, il va forcément faire un recours pour revérifier la photo finish. On sait jamais, hein.
Ouais.
Parce que moi, je crois que je suis pas du monde 2013... Je passe au millième en finale et apparemment j'ai entendu que la délégation chinoise avait porté réclamation pour vérifier. Donc par expérience, je dis est-ce que ça va oui. peut-être faire pareil. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à célébrer cette médaille pour le coup.
Oui.
Même si j'ai fait le tour d'honneur et tout, mais il y avait un fond de moi qui était sur la réserve disant
ouais.
est-ce que c'est sûr et puis est-ce que c'est sûr, est-ce que j'aurai vraiment cette médaille jusqu'au bout. Et puis quand je reçois le podium, la médaille, je me dis bon bah c'est bon, ça se fait. Au moins c'est sûr maintenant que je l'ai. Et du coup, bah maintenant, elle est à moi, et maintenant, voilà, on peut profiter de ça tranquillement maintenant.
Alors, tu as eu cette médaille olympique, tu as eu plein d'autres médailles. Est-ce que ce sont... Quel est ton meilleur souvenir, le plus fort ? Ce n'est pas forcément cela, d'ailleurs, ça peut être une autre course avec le club d'Aix-les-Bains.
En fait, j'hésite entre deux. J'hésite parce que Rio, c'est ma seule médaille olympique individuelle. Ça vient, entre guillemets, gommer des années de contre-performance de blessure que j'avais eues avant.
C'est sûr.
Après, t'as Daegu, où je fais 3e, mais où là, c'est la course ma plus aboutie, puisque je fais 19,80, c'est là où je suis le plus rapide sur 200 mètres. Là, c'était sûr qu'il n'y avait pas de photo finish ou quoi, j'étais 3e bien devant. Et donc là, j'ai pu vraiment savourer, profiter du moment. Donc c'est vrai que c'est on va dire un peu deux moods un peu différents, quoi.
Ouais.
Daegu, je suis en pleine pendant ascendante, je suis dans la forme de ma vie et... ça vient confirmer ma progression. T'as Rio qui derrière efface des années de galère et t'as toujours mis avec la peur de t'avoir retiré cette troisième place à cause peut-être d'une éventuelle réclamation des Anglais disant
ouais.
que bah non finalement
ouais.
t'es pas troisième quoi, donc c'est,
ouais.
c'est deux trucs différents
ouais.
mais c'est quand même une plus belle médaille, donc je peux ouais. pas dire que c'est obligé d'être dans mes meilleurs souvenirs.
Et alors tu parlais du 100 et du 200, qu'est-ce que tu préfères?
Alors ça a beaucoup changé ces dernières années. Avant j'aimais plus le 100 mètres pour diverses raisons, hein, parce que j'ai d'abord perfé sur 100 mètres avant de perfé sur 200, parce qu'il a fallu que j'accumule l'expérience, mais des courses et surtout être capable d'encaisser des 200 mètres à fond du début jusqu'à la fin, ce qui n'était pas le cas avant. Et 100 mètres, sur 200 mètres à l'époque, j'unissais, j'étais sur les rotules, j'étais lactique, je mettais trois plombes à récupérer au niveau cardio. Donc sur 100 mètres, c'est dynamique, c'est explosif, en 10 secondes ou moins, c'est réglé, et voilà, t'en parles plus. Et après, petit à petit, j'ai basculé sur le 200. Même là, je suis totalement plus fan du 200 que du 100 mètres, parce que j'ai appris à aimer la distance, j'ai appris à la prévoiser aussi. Aussi, c'est là où j'ai mes meilleurs résultats aussi, forcément. Et du coup, maintenant, je me considère comme plus un sprinter de 200 que de 100 mètres et maintenant c'est vraiment la discipline que je préfère, oui.
C'est clair. Et alors oui, parce que le 100 mètres aussi il est associé à, on va venir dessus, mais le premier blanc coureur blanc sous les 10 secondes. Comment tu l'as vécu ça, parce que il y a quand même eu un sacré buzz, quoi. Il me semble que j'avais vu un reportage où après tu avais eu des mails des États-Unis de cette fameuse terrible
secte.
Association, secte, terrible, horrible, le Ku Klux Klan qui t'avait contacté, etc. Comment t'as vécu tout ça? C'était vrai, hein, ce truc de Ku Klux Klan?
Oui, c'est, malheureusement, c'est à chaque fois que ce soit pas vrai, mais si, c'est vrai.
C'est dingue.
En fait, si on reprend du début, quand je franchis la ligne d'arrivée au Championnat de France à Valence en 2010, y a la joie d'avoir gagné, d'être passé sous 10 secondes. D'avoir battu mon record personnel, d'avoir établi un nouveau record de France. Mais c'est vrai qu'après, quand il y a eu la zone média, C'est vrai qu'on m'a énormément parlé de ça. Oui. Donc je savais qu'on allait me parler de ça parce que on en parlait déjà un peu avant aussi. Donc j'ai voulu balayer ça en disant non, ce genre d'histoire ça m'intéresse pas, c'est pas ce qui compte. Mais quand je vois les médias, quand je lis les médias, je dis qu'il y a énormément, on accorde énormément d'importance à ça, et ça m'a un peu choqué et attristé parce que j'aurais vu qu'on accorde plus d'importance sur l'aspect sportif chronométrique de la chose, parce que des Français m'en disent bah à l'époque j'étais que le deuxième, et on sait ce que ça représente la barrière des 10 secondes aux 100 mètres. Et c'est vrai que j'aurais voulu qu'on mette plus en avant cet aspect-là du côté sportif qu'un aspect, pour moi, anecdotique, même s'il est vrai, mais plus, j'aurais voulu qu'on mette un peu plus de côté, ce qui n'est pas le cas parce que beaucoup de médias, même dans le monde, ont relayé ça.
Il y a même eu un livre, une étude.
Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est vrai que malgré moi ça me colle un peu à la peau malheureusement, et même pour avoir beaucoup dit dans divers médias que je m'en moquais un peu, que si j'étais arrivé là c'était juste par travail, talent et d'envie, voilà, tout simplement. Et mais bon, c'est resté comme ça, et bon du coup je vis un peu avec, quoi. On en reparle encore maintenant, et je pense qu'on en reparlera encore plus tard, hein.
C'est clair. Et alors, pour revenir sur les sensations que tu avais, notamment sur le 200 quand tu fais par exemple 19,80 là, où tu remontes en fait sur cette, comme tu disais avant, t'étais lactique, t'avais du mal à tenir la distance, et puis finalement là c'est là où tu vas aller gagner ta médaille. Est-ce que alors, il y a le fait de rattraper l'athlète devant toi, enfin les athlètes devant toi, mais est-ce que au niveau de la piste, au niveau de l'appui sur le tartan, avec les pointes, avec tes chaussures, etc., est-ce que ça, tu avais une sensation particulière là-dessus, à ce moment-là, ou est-ce que tu sentais quand tu étais bien, en fait, quand tu courais vite?
Oui. Mais ça se sent vraiment. Par exemple, pour donner un exemple, j'étais mieux dans ma demi-finale de Rio qu'en finale. J'avais vraiment dans cette demi-finale du 200, j'étais vraiment sur des sensations que j'avais plus ressenties depuis un petit moment déjà, où je sentais que ça se faisait tout seul. J'avais cette sensation où j'étais en mode auto, et que mon corps fonctionnait tout seul. Il savait comment aller vite, il savait comment aller vite, et ça se faisait tout seul. J'avais vraiment cette sensation où tout était en place pour que ça court vite, et je le sentais. J'avais l'impression de voler sur la piste, d'être haut, d'être aérien, et surtout à la fin du 200 mètres comparé à beaucoup de 200 avant, j'étais pas fatigué, quoi. Je me sentais bien. J'avais dit à mon coach, mais je suis pas fatigué là, je pourrais recourir à 2200 mètres dans une heure, il n'y aura aucun souci, quoi. J'étais vraiment bien, j'étais bien. Alors qu'à Rio, c'était un peu plus, on va dire, étriqué, c'était un peu plus tendu, on va dire. Et en même temps, j'étais à la bagarre du début jusqu'à la fin avec le couloir devant moi, Chornier Martina, parce qu'il fallait que je sois devant lui pour
passer directement,
pour être sûr d'être troisième. Parce que l'anglais qui était au couloir 2 ou 3, je ne voyais pas de la course, parce qu'il était trop loin, il était trop décalé. Donc je voyais Bolt, De Grasse et Martina, le néerlandais, à côté de moi. Je me dis, il faut vraiment absolument que je passe devant si je veux être troisième. Donc c'était pour ça que j'étais un peu plus tendu que d'habitude, ça se peut. Et c'était pour ça que j'ai couru un peu moins vite, mais de toute façon tout le monde a couru un peu moins vite dans cette finale, hein.
On le sait, hein, les
c'était une finale, je pense que c'était une finale où il y avait beaucoup de tension, parce que chacun, peut-être un peu pour la médaille d'or un peu compliqué, mais sinon pour la médaille, tout le monde avait à peu près sa chance finalement, et il fallait se démarquer, hein.
Ouais, c'est clair. Ça fait des frissons à chaque fois quand on parle. on revit cette course. Et alors, t'as une autre passion, je crois bien. Alors moi, j'y connais strictement rien. C'est les jeux vidéo, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Bon, alors, qu'est-ce que ça t'apporte, les jeux vidéo? Parce que franchement, moi, j'en fais pas, je connais pas. Qu'est-ce que tu ressens dans ce moment-là? Est-ce que ça t'apporte quelque chose, déjà?
Bah, en fait, parce que pour revenir à la base, je me suis mis aux jeux vidéo très tôt parce que mon père jouait souvent, mais sur ordinateur. Mm-hmm. Et donc, il m'a un peu mis là-dedans. Donc, du coup, je suis resté. Mais après, bah, pour un côté un peu plus triste, c'était parce que c'était un moyen de m'isoler du reste. Mm-hmm. Parce que c'était dans une époque où j'étais victime d'harcèlement scolaire. Mm-hmm. Donc, je voulais pas sortir de chez moi. Je voulais voir personne. Et donc, du coup, en fait, les jeux vidéo, c'était pour moi un peu de m'évader, mais tout en restant chez moi, en évitant le monde extérieur. Donc, du coup, je me suis vraiment... c'était un moyen pour moi de passer le temps le plus vite possible et de passer à autre chose et surtout d'éviter de sortir dehors, quoi. Mais du coup, maintenant, j'en ai trop mais ça un peu plus un truc un peu plus positif quand même. Oui. Quand même, parce que bon, j'avais pas resté dans ce mood là non plus. Mais du coup, je joue beaucoup moins parce que maintenant, là, j'ai une vie de famille maintenant.
Et c'est oui, compliqué.
C'est
papa.
Hein. C'est ça, maintenant, c'est un peu compliqué maintenant. Mais maintenant, je dirais que c'est un bon moyen quand j'ai du temps pour moi, de passer du temps tranquillement. Surtout que j'en ai plus beaucoup, donc j'en profite. Mais. Voilà, c'est juste maintenant, je dirais pas que c'est une passion, c'est vraiment plus ça, c'est vraiment un passe-temps. Et même si il y a pas longtemps j'ai acheté mon propre PC pour pouvoir geeker maintenant dessus, parce que c'était un peu une envie aussi, c'est plus un passe-temps ça maintenant qu'à l'origine vraiment un exutoire pour m'évader du monde réel, on va dire.
Ouais, d'accord. Mais ça te, par exemple, pendant tes entraînements, enfin si tu joues aux jeux vidéo, ça prenait du temps sur le sommeil, etc. Est-ce que du coup tu t'es limité par rapport à un peu à ça ou t'arrives à gérer parfaitement
Non, je pense que j'arrive à gérer parce que à cette époque, j'avais encore des cours, donc forcément, il fallait se lever, donc ouais. il fallait limiter. Et maintenant, je pense que là j'ai énormément réduit, on va dire, oui. ma consommation d'écran maintenant, parce que maintenant j'ai découvert d'autres choses, maintenant, oui. D'autres passions, d'autres envies, oui. D'autres activités. Vraiment, on va dire que le jeu vidéo, c'est vraiment quand je sais que j'aurai rien à faire d'autre. Et que c'est vraiment que du temps dédié à moi-même, quoi, ouais, c'est tout. Ouais. Quand j'ai pas d'autres choses à faire, être avec les amis, faire des cours de sax, m'occuper de ma famille, etc. Donc,
des cours de saxo. Ah bon, c'est ça, tu fais ça?
Ouais, d'accord. C'est ça, ouais.
Parce que j'allais te demander, est-ce que t'as une passion cachée qu'on connaît pas? Donc tu fais du saxo.
Je dirais pas que c'est une passion parce que disons que j'avais toujours cette envie de faire d'un instrument. Et j'ai hésité entre plein de trucs, le piano, guitare ou le saxo. Et puis j'ai dit, tiens, le saxo c'est un peu plus atypique, donc je vais m'y mettre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que là aussi, des fois c'est un peu plus compliqué parce que. Ça dépend des périodes, forcément. Oui. En période de compétition, de stage, je peux pas m'entraîner.
Tu pourrais l'emmener avec toi
j'ai pris un sac ténor, c'est un gros truc comme ça là pour transporter. Déjà que je l'emmène au conservateur d'Aix, c'est pas évident de transporter.
D'accord. Ah oui.
Pour le cours, donc non. Encore, je peux l'emmener à Metz parce que bon, je le mets dans la voiture, ça va, oui. C'est plus pratique. Mais en compétition, en stage, déjà t'as une grosse valise avec un sac à dos. En plus, tu dois ramener ton sac, en plus t'auras peur qu'il soit abîmé dans l'avion. Pas spécialement envie. Ouais.
Alors quand on parle musique, là, parce que là du coup c'est la musique que t'as découvert pendant ta carrière et encore maintenant, t'as des musiques que tu écoutes pour faire monter la pression ou pas du tout? Est-ce que t'es, parce que bon, maintenant on voit beaucoup d'athlètes avec des écouteurs et autres, mais t'as une musique fétiche ou pas?
Pas spécialement, ça dépend du moment. J'ai toujours beaucoup changé de style de musique au fil, ouais. au fil au, au, au... au fil des ans, j'avais une paire de rap, après une paire d'électro, une paire de rock. En fait, j'ai beaucoup de périodes avec des styles différents. Et c'est vrai que quand j'étais dans le bus qui m'amenait au stade d'échauffement, j'écoutais de la musique. Mais une fois que je commençais l'échauffement, c'était terminé, je posais tout et c'était que moi et pas de musique ou autre chose, quoi.
D'accord. Écoute. Alors, on va parler de l'actu un petit peu. Là, du coup, tu es en préparation pour Paris 2024.
C'est ça, ouais.
Mission objectif Paris 2024.
Exactement, ouais.
Ouais. Parce que là, ces dernières années, tu as quand même accumulé les blessures.
C'est ça, ouais.
Et on en parlait juste avant que tu rentres, tu vas chercher d'autres pistes pour essayer de comprendre les blessures et fixer ton entraînement, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Bah, là, on est sur un tout nouveau projet que le club a mis en place pour moi. Parce qu'il y a énormément de changements. Bah, comme on a su, je suis séparé d'un de mes coachs, Thierry Tribondo. Ouais. Là, le club a mis une grosse structure avec moi. Donc là, ils ont vu avec une structure à Genève, justement, pour m'aider dans ma préparation, faire des batteries de tests, pour m'aider à anticiper et à anticiper les blessures et les éviter tout simplement,
oui.
Voilà, pour plus répéter les années précédentes où j'étais un peu embêté avec ce problème-là, mais aussi pour orienter ma préparation de manière optimale, voir ce qui me manque, mes points forts, mes points faibles, et optimiser mon entraînement pour être le plus performant possible, chose qu'on n'a jamais fait avant, où on avait vraiment mis le côté, on va dire, scientifique de côté,
oui.
Et où on faisait vraiment plus à l'instinct, à l'œil, à l'expérience. Mais je pense que d'avoir un outil externe comme ça, ça peut être qu'un plus. Et je suis content que le club d'Aix-les-Bains ait pu mettre ça en place. Et ça m'a permis justement de repartir sur un truc de nouveau. Parce que je pense que j'avais besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que on a travaillé pendant plusieurs années sur la même base, on va dire. Sur une même routine ça me correspondait plus, je pense, à mes problématiques actuelles, mais je pense aussi parce que on va dire que mon corps s'est adapté, on va dire, à cette routine, et comme le corps est un peu feignant de base, il s'est adapté, il a fait en sorte d'être le moins s'adapter pour être le moins fatigué possible, entre guillemets,
pas aller chercher les limites, alors,
ouais, je pas chercher les limites, c'est ça. Donc du coup c'était
Parce qu'une fois j'avais vu que tu parles de recherche, etc. Il me semble qu'une fois j'avais vu des vidéos, mais c'est peut-être avec ton sponsor ASICS, hein, je pense que tu avais fait ça au Japon, il me semble, où tu sais, tu avais des points lumineux, des capteurs vidéo pour analyser tes cours. Alors je me dis, est-ce que c'était une recherche spécifique ou est-ce que c'était plus de la com, enfin, que tu allais faire, parce que tu as fait pas mal de vidéos.
Non, il y avait vraiment une vraie recherche là-dessus, par rapport justement, déjà pour les pointes,
oui.
pour optimiser la performance aussi. Aussi peut-être d'un point de vue textile aussi, pour grappiller des sorties. Donc il y avait vraiment une vraie étude mise en place avec des vrais tests. Il y avait un peu de com aussi forcément,
oui.
Mais c'est vraiment fait pour m'aider à optimiser la performance avec les pointes et le textile qu'ils allaient mettre en place pour moi.
D'accord, ah ouais, ok. Et on va revenir sur Paris 2024 quand même. Comment tu vas aborder ces jeux? Parce que t'as fait Londres et Rio.
C'est ça,
ouais. Qu'est-ce que tu espères sur Paris? Enfin, je veux dire, le fait que ce soit en France, un immense championnat comme ça, t'es excité à cette idée, moi j'imagine, hein, puisque sinon tu mettrais pas tout en place que tu es en train de mettre. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux en France à Paris?
Je pense que c'est au-delà que ce soit des Jeux Olympiques, parce que bon, c'est quand même l'objectif du nouvel Olympiade, de se qualifier aux Jeux suivants. Mais je pense que c'est pour chaque athlète sportif une étape incontournable, même c'est l'étape finale peut-être d'une carrière pour certains, de dire que il y a les Jeux de Paris en France, tu vas vivre des Jeux à domicile avec, on espère, un stade plein, le public qui te pousse, qui te galvanise, Et moi, je veux pas louper ça. Je veux pas louper des Jeux Olympiques à la maison. Et moi, honnêtement, ça me ferait vraiment mal de louper ce en tant qu'athlète, de louper ça et de pas vivre ça. Ça mentalement, c'est vrai que ça serait très dur.
Ouais. Toi, ça peut être vraiment le point d'orgue de ta, enfin, le feu d'artifice de ta carrière, quoi. Terminer sur les Jeux à Paris, ça serait.
Ouais. Après, est-ce que j'ai terminé à Paris, ça dépendra.
Ah oui, j'y pense un peu alors.
Mais après, ça dépend. Je pense que me connaissant, ça se décide déjà un peu
oui.
Le jour J, quoi.
Oui, oui.
Mais si on part sur le fait de s'arrêter, c'est vrai que j'ai envie de m'arrêter en participant aux Jeux de Paris. Et même pas forcément qui participait, je tiens à faire les meilleurs jeux possibles. Donc, parce que me connaissant, d'y aller pour dire ouais, j'ai participé aux Jeux de Paris, pour moi, ouais. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est pour faire de la perf aussi. Et encore plus faire de la perf devant le public français.
Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, c'est ce que je te souhaite vraiment. T'aurais des conseils d'ailleurs à un jeune où est-ce que tu as dans le club, il y a des jeunes qui arrivent, tu leur donnes des conseils ou comment ça se passe? Après, le conseil, ils l'ont en te voyant à l'entraînement, puisque en fait, il n'y a rien de mieux que de regarder l'athlète s'entraîner, le champion.
Oui, bah après, par exemple, pour donner, là, il y avait un jeune coureur de 400. Avec qui je m'entends très bien. Je l'ai accompagné sur deux, trois compétitions là cet été, vu que j'avais mis un terme à ma saison prématurément. Et il faisait des compétitions justement là où j'étais, aux alentours de Metz. Ouais, il a fait la compétition de Nancy, il a fait les Open de France à Épinal, vu que moi et ma compagne, on était sur Metz, vu qu'elle habite sur Metz. Donc du coup j'ai pu aller pour justement le voir, voir son échauffement, le conseiller, etc. Parce que c'est vrai que Nancy, c'était le meeting de Nancy, c'était son premier gros meeting.
D'accord.
Donc il débarquait comme ça et puis je l'ai suivi de loin au France Espoir. Et j'étais là à Épinal. Bon, après, il s'est aligné plus sur le 200 mètres parce qu'il voulait s'amuser aussi sur 200 mètres vu qu'il avait réussi sa saison. Et donc, je voulais accompagner parce que l'aider un peu parce que je pense qu'il a un bon potentiel. Je sais pas s'il pourra être en équipe de France plus tard, mais il avait un bon potentiel. Il voulait perfer, il voulait s'entraîner. Donc, je voulais l'aider parce qu'il y avait des défauts qu'il a quand il court.
Ah, t'avais repéré ça, tu l'as repéré. En fait, c'est un rôle de grand frère aussi que tu as là.
Je dirais pas de grand frère, mais c'est vrai que maintenant, quand je vois des athlètes de mon club qui ont un potentiel, mais que je vois qu'il y a encore des trucs à optimiser et que le travail pour
l'améliorer,
pour le corriger, connais, ouais. Le corriger n'est pas fait.
Oui.
Maintenant, ça a tendance à m'énerver maintenant. Alors qu'avant, je m'en moquerais parce que oui. Moi, je sais que parce qu'à l'époque, moi, je courais mal. Mais même en courant mal, j'arrivais à courir vite. Donc, ça ne me dérangeait pas. Mais avec le recul, maintenant, je sais que ça peut, pour certains, ça peut freiner. Et même entraîner des blessures. Donc, du coup, je voulais lui donner 2-3 conseils. Justement, il y avait des gros points à travailler. Lui, non, il faut qu'il manque énormément de gainage. Il court, il court un peu mal. Et je pense qu'il a énormément besoin de gainage pour aider à tenir à 400 et courir mieux, déjà. Et ouais, c'est le genre de conseil que je vais donner pour s'améliorer parce que je sais qu'il peut encore aller, il peut encore progresser, bien progresser et après faire des bons meetings, travailler dans les bons meetings. Et après là, je sais que là il va faire les championnats Méditerranée 23 là avec le relais, donc je crois que c'est sa première sélection d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Mais quoi qu'il en soit, ouais, j'aime bien maintenant d'aider mes camarades d'entraînement sur des conseils techniques parce que je pense que de toute façon ça fait partie quand t'es dans un club et quand t'as énormément d'expérience, d'aider les autres. Je pense que ça fait partie aussi de la vie en club, de l'entraînement avec tes camarades, de les aider à progresser, hein, et de leur donner 2-3 conseils, les corrections, et aussi de leur donner des exemples de travail justement pour corriger ses défauts.
C'est clair. Bon, alors on arrive à la fin du podcast, je ne veux pas trop te retenir non plus. Je termine souvent par trois petites choses. Je vais, alors après je ne sais pas si tu répondras à tout, mais ce n'est pas grave. Je vais te dire un mot, et par association d'idées, il faudrait que tu me dises le premier mot qui te vient tout de suite. D'accord,
on y va? C'est parti. Allez.
Alors, Rio.
Médaille.
Sprint.
Vitesse.
Équipe de France.
Objectif.
Pierrot Carraz.
Entraîneur.
Ligne d'arrivée.
Cassé. Comme le café du Renard. Ouais, ouais. Le fameux café du Renard.
qui va amener les 3 millièmes. Paris 2024.
Finale.
Présent.
Futur.
Avenir.
Ah. Radieux.
Aix-les-Bains.
Aix-les-Bains. Il y a plein de choses qui m'arrivent en tête.
Vas-y, il n'y a pas besoin de mettre comme moi.
Aix-les-Bains, club.
Et papa.
Papa, Anna, c'est ma fille. Donc, voilà.
Super. Alors, les deux dernières questions. L'avant-dernière, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie ?
Est-ce que j'ai une devise dans la vie ? Mmh. Je crois que non. En fait, moi, j'étais jamais été vraiment devise ou même idolâtrer des gens, des athlètes, des sportifs. J'ai toujours été capable de me motiver tout seul. En fait, j'ai jamais eu besoin de ce genre de choses pour me motiver, en fait. Donc non, j'ai jamais eu de devise dans ma vie, non.
D'accord. Oh, bah, c'est pas on est pas obligé, il y a pas de souci. Avant de faire la toute dernière question, je voulais revenir sur sur le harcèlement, parce que sur harcèlement scolaire, en fait, actuellement, t'as vu, c'est beaucoup plus sorti encore qu'avant à l'entraînement, dans différentes disciplines, sur harcèlement sportif, moral et autres. Est-ce que toi, justement, tu penses que le sport t'a aidé à passer ce harcèlement scolaire que tu as vécu? Je sais que t'as écrit un livre, hein, là-dessus.
Mm-hmm. Bah, je pense que oui, c'est clairement le sprint. En fait, disons, c'est pas vraiment le sprint, c'est surtout les résultats que j'ai eus, parce que ça m'a permis d'avoir découvert un domaine où je savais que j'étais compétent, que j'avais des résultats dans ce domaine, et du coup ça a permis de récupérer la confiance en moi que j'avais perdue à cause du harcèlement, et du coup de me sentir mieux dans ma peau et mieux dans ma tête, et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou. Et puis surtout, non, mais je suis resté dans un club vraiment longtemps, donc j'ai pu un peu tisser des liens avec les gens. Donc du coup, ça m'a permis un peu plus de sortir de ma bulle, même si je le suis souvent encore des fois, mais je pense que ça fait partie de mon caractère, de ma nature.
C'est ta force aussi, certainement.
Aussi, oui. Et aussi, ça m'a... Avec les performances, bah, ça a mis aussi les médias, forcément des questions, et t'es obligé de t'exprimer vraiment pour dire vraiment ce que tu penses et pas faire deux phrases bateau puis terminer. Donc il y a aussi ce côté-là qui m'a aussi permis d'avantage m'exprimer, de prendre confiance en moi aussi, d'être capable d'exprimer ce que je ressens davantage, et ça a été un plus aussi.
Ouais.
Même si des fois on aimerait éviter les médias, mais bon, des fois on peut pas trop. Donc,
Alors, mon podcast, il s'appelle Belle Trace. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace ?
Bah, je pense qu'une belle trace, c'est surtout ce que tu as envie de laisser aux gens, mais aussi par rapport à toi-même. De se dire, tu regardes derrière toi, je te dis, ah, quand même, j'ai fait ça dans ma vie. Je pourrais en parler fièrement à ma fille Anna, par exemple, lui dire, regarde, ton papa a fait ça. Et aussi, bah, après, à tes petits-enfants, à tes petits-enfants, ça va jusqu'à là. Ouais. Mais moi, te dire que dans ta famille, dans tes proches futurs, bien sûr, les générations futures de ta famille, bah, on pourra dire que, regarde, on avait un gars qui courait vite dans la famille, qui a fait des performances. Et je pense que c'est une plus belle trace que ce que tu laisses par rapport aux autres personnes. Vous êtes au monde extérieur.
C'est une belle trace qui inspire, en fait.
C'est ça, ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Écoute, je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment.
Aussi.
Merci pour cet échange.
C'était
très, très enrichissant. Oui. Merci, Christophe.
Merci à toi.
Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3,
mes 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.